Alors ce matin, on va continuer dans 1 Samuel, si vous voulez bien le prendre avec moi, 1 Samuel, et on va lire versets 1 à 4 du chapitre 18. 4. David avait achevé de parler à Saül, et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Alors c'est un des plus beaux textes de la Bible, un des plus bels exemples d'amitié dans les Écritures. Et on peut dire qu'il s'est passé vraiment quelque chose ce jour-là entre David et Jonathan. Il faut savoir que donc Jonathan était le fils du roi Saül, du roi qui était en place. C'était finalement un prince qui était juste derrière son père. Mais Jonathan va être touché en voyant ce qui s'est passé avec la scène de Goliath, hein, ce combat, et à voir ce que David a pu dire et comment il a pu parler, répondre. Et tout de suite, il va le prendre en affection. À vraiment avoir de l'amour pour lui. Et on peut se poser la question d'abord, pour regarder un peu le contexte, qu'est-ce que Jonathan a vu chez David de particulier? Qu'est-ce qui a provoqué cet élan dans son cœur, ce désir, hein, et cette envie de se rapprocher de lui, de s'attacher à lui, d'avoir confiance en David? Quand il y a eu cette confrontation entre David et Goliath, la première chose que Jonathan a vue chez David, c'est du courage. Il n'y avait personne qui osait affronter Goliath. Tout le monde se cachait, ils étaient dans la crainte, le peuple était dans la crainte, Saül même, peut-être il ne montrait pas, était dans la crainte. Tout le monde était dans la peur et là, ce David arrive, il est plein d'audace et plein de courage. Et là, Jonathan est admiratif. Il se dit, mais c'est incroyable, il sort du lot par rapport à tout ce que j'ai pu voir. Et puis ensuite, Jonathan va avoir une foi qui est exemplaire. Forcément, un colosse énorme, David qui est plutôt petit, j'imagine, en tout cas pas de la taille de Goliath, hein, et qui va s'appuyer sur l'Éternel son Dieu, qui va se lancer dans la bataille en disant « La victoire appartient à l'Éternel, il vous livre entre nos mains ». Et là encore, Jonathan est voilà, admiratif, il voit ça, il est impressionné de la foi de David. Ensuite, il a vu un désir chez David de défendre l'honneur de Dieu. Parce que David ne s'avance pas avec orgueil en se disant « mais je vais réussir à abattre ce Goliath ». Non, il est vraiment dans un désir de défendre Dieu. Hein. C'est l'honneur de Dieu qui est en jeu. Il va dire « je marche contre toi, Goliath, au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté ». Il prend la défense de son Dieu. Là encore, Jonathan est touché. Et puis, bien sûr, Jonathan a vu que David aimait profondément l'Éternel. Et il va rester subjugué devant ce jeune homme qui relève le défi et qui va aller combattre un géant. Alors, soit David est fou d'oser s'approcher de ce géant, soit il a une vraie relation avec Dieu, une vraie connaissance de Dieu et il est vraiment eh bien, poussé par Dieu pour agir de cette manière. Et c'est quand le géant tombe à la renverse que là, Jonathan se dit « mais en fait, il n'est pas fou. Non, c'est vraiment quelqu'un qui a été choisi par l'Éternel et je vois que l'Éternel est avec lui. » Alors maintenant, qu'est-ce que ça va produire dans le cœur de Jonathan? Et c'est à cette question que nous allons répondre ce matin. Jonathan a vu dans le cœur de David, eh bien, de l'amour, de la foi, du courage, un désir de vraiment défendre Dieu. Qu'est-ce que ça produit dans le cœur de Jonathan? On va voir au moins trois choses. Verset 1, donc pour relire. David avait achevé de parler à Saül et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Et la première chose que cela produit, c'est de l'amour. Tout de suite, Jonathan éprouve de l'amour. Il y a un attachement profond pour la personne de David. Sans aucun doute, Jonathan, c'était aussi quelqu'un qui aimait Dieu. Hein? Lui aussi, il avait de la foi, il avait du courage, il avait de l'amour pour Dieu. Mais là, de le voir chez David, ça produit de l'amour pour David. Et est-ce que ce n'est pas là ce qui se produit quand vous aimez le Seigneur et vous rencontrez quelqu'un qui aime le Seigneur? Tout de suite, ça produit de l'amour pour la personne qui est en face de vous. Quand il y a un enfant de Dieu qui rencontre un autre enfant de Dieu qui marche avec le Seigneur, eh bien, il y a de l'amour qui s'établit, il y a un lien, il y a une affection réciproque qui se tisse entre eux. Et ça, c'est quelque chose, peut-être que vous avez expérimenté ou vous êtes en train de l'expérimenter, je ne sais pas. Tout à l'heure, on lisait le psaume 119 et j'aimerais qu'on lise un verset du psaume 119, c'est le verset 63. Psaume 119, verset 63. Il est écrit « Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. » Je suis l'ami de ceux qui te craignent. Et c'est naturel en fait. Je suis attiré, j'ai envie d'être et d'aimer ceux qui te craignent et ceux qui gardent ta parole, qui gardent tes ordonnances, hein, dit le psalmiste. Et c'est intéressant de voir qu'une amitié manifeste s'établit entre ceux qui craignent l'Éternel. C'est pas parce qu'ils se forcent à s'aimer, mais c'est naturel. Quand on aime Dieu et qu'on voit quelqu'un qui aime Dieu, prof, le lien s'établit. Et c'est ce qui s'est passé pour Jonathan. Parce qu'il craint lui-même l'Éternel et qu'il voit David craindre l'Éternel, le lien s'établit. Il y a un autre très beau verset qu'il exprime, c'est le psaume 16, verset 3. Il est dit « Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. » Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. Là encore, un attrait. Hein. Les hommes pieux, ce sont eux qui attirent l'attention du psalmiste. Hein. Et là, c'est David qui parle. Et c'est David qui dit « Mais ceux qui aiment l'Éternel, je les aime. J'ai envie d'être avec eux. » Ils ont toute mon affection. C'est quelque chose de très fort, toute mon affection. Aimer ceux qui aiment Dieu. Et là encore, ce n'est pas un ordre, mais c'est naturel, c'est logique. Ça émane de quelqu'un qui aime vraiment le Seigneur. Et c'est ce qu'a fait naturellement Jonathan pour David et David pour Jonathan. Ils se sont reconnus l'un l'autre comme des aimants l'Éternel. Est-ce que nous sommes des aimants l'Éternel? Nous aimons l'Éternel. Mais la parole de Dieu révèle que l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et cette mention de l'âme, il faut aussi le souligner dans le texte, au-delà du corps, c'était deux âmes qui s'aimaient. Et il y a plusieurs situations, plusieurs circonstances où se produit un lien d'amitié profond entre deux âmes. D'abord, de manière évidente, c'est le mariage. Dans le mariage, eh bien, on se met à aimer l'autre comme son âme. C'est ce que dit Jonathan. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est intéressant. Ça signifie qu'on aime naturellement notre âme. Hein, on n'a pas besoin de se forcer. Nous nous aimons nous-mêmes. Mais justement, c'est précieux quand on se met à aimer l'autre autant qu'on aime son âme. Et c'est ce qui se passe dans un mariage où, voilà, on aime et on a envie de plaire, donc on est prêt à faire beaucoup de sacrifices pour soi-même, parce qu'on s'aime, et qu'on devient prêt à faire d'autres sacrifices pour l'autre, parce qu'on l'aime. Ensuite, une deuxième circonstance où s'établit aussi cet amour entre deux âmes, c'est dans l'amitié. Et là, on en a l'exemple avec David et Jonathan et ce qu'ils ont vécu. Ils sont entrés dans une profonde amitié l'un pour l'autre. Leurs âmes se sont attachées affectivement l'une à l'autre. Et la relation d'amour s'est tissée ensemble, entre eux. Mais j'aimerais dire que cette amitié, elle peut aussi se tisser, et elle se tisse très facilement, entre des personnes qui marchent ensemble avec Dieu et qui aiment ensemble le même Dieu. Parce que dans l'amour pour le Seigneur que nous avons en commun, Il y a un lien fort qui nous unit. C'est, pour reprendre ce verset, « Les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. » Ça sort, c'est naturel. Et c'est quelque chose que on peut pas vraiment expliquer, mais il y a comme l'écho d'un amour en commun pour Jésus-Christ. On sent cet écho et ça nous rapproche, c'est automatique. On s'aime naturellement dans le Seigneur. Et on peut toujours l'illustrer avec cette idée que plus on se rapproche de Dieu, plus la distance entre nous se diminue et plus, eh bien, on s'aime, quoi, hein. Plus on est fixé sur Dieu et plus l'écart diminue entre nous. Maintenant, qu'est-ce que ça va produire encore chez Jonathan ? Verset 3, 1 Samuel 18, 3, il est dit « Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme ». Et c'est la deuxième chose qu'on voit ici, c'est que Jonathan a voulu s'engager avec David dans une alliance. Peut-être c'est un peu comme l'idée, voilà, on se fait frère de sang, hein, les enfants, ils aiment bien faire ça, s'engager. Et Jonathan vont sceller avec David, ils vont sceller leur amitié par une alliance ensemble. Et la deuxième chose que ça produit, que ça a produit dans le cœur de Jonathan, c'est cette attraction, cet amour pour David, c'est un engagement. Un engagement. Dans le mariage, il y a un engagement. Mais dans l'amitié, il y a aussi un engagement. Même si ce n'est pas un engagement qui est exprimé, même si c'est tacite. Dans l'amitié, il y a un engagement tacite, naturel. Ce n'est pas formulé, mais on se sent engagé l'un vis-à-vis de l'autre. Et c'est la même chose dans une vie chrétienne et dans une relation chrétienne fraternelle qui est sincère et qui est vraie, qui est transparente. Entre enfants de Dieu qui aiment le même Seigneur et le même Sauveur, eh bien, on se sent d'une certaine manière engagé. Tout comme Jonathan a fait alliance avec David, il y a une alliance qui est tacite. Il y a un engagement finalement à l'amour, à la fidélité, à la loyauté. Et j'aimerais qu'on se penche un petit peu sur des exemples de relations qu'il y avait entre des frères et sœurs dans les Épîtres. On va prendre 2 Timothée 1, 16 à 18. On lit... Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Et là, on voit un lien très, très fort entre deux hommes, Onésiphore et l'apôtre Paul. Et on voit qu'Onésiphore a montré un amour sans faille pour Paul alors qu'il était en prison. D'abord, on peut relever cette idée de constance. Il y avait une constance dans le fait qu'Onésiphore l'avait souvent consolé. Donc, il y avait une vraie amitié qui s'était tissée entre ces deux hommes. Et puis, lorsque Paul se retrouve en difficulté, il est dans les chaînes, il est à Rome. Onésiphore va le chercher avec persévérance jusqu'à ce qu'il le trouve. Et il est dit sans avoir même peur pour sa propre vie et sans avoir honte en fait. Onésiphore n'avait pas fait alliance avec Paul comme Jonathan avait fait alliance avec David, mais c'était tacite. Il y avait comme un engagement entre eux, ils s'aimaient. Et ils se sentaient responsables l'un de l'autre. Onésiphore se sent responsable de Paul. Paul se sent responsable d'Onésiphore. Il va écrire sur lui en disant, mais voilà, souvenez-vous de lui, souvenez-vous de sa famille, honorez de tels hommes. On peut souligner aussi ce qui précède dans les quelques versets avant, on ne va pas les lire, mais Paul parle de tous ceux qui l'ont abandonné. Et juste après, il enchaîne avec cet exemple d'Onésiphore. Et on voit que dans l'engagement tacite qu'il y a dans l'amour entre frères et sœurs, ben, il y a une certaine loyauté, une certaine fidélité. Jamais Jonathan n'allait abandonner David. Et on voit même dans la suite de notre texte, David ne va pas abandonner Jonathan, même une fois que Jonathan est décédé, mais David ne va pas abandonner la famille de Jonathan. Et on retrouve cette loyauté, cette fidélité entre ceux qui aiment le Seigneur d'un cœur pur. Philippiens 2, verset 25. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Et puis on saute, on va lire versets 29 à 30 du même chapitre, chapitre 2, versets 29 à 30. Il dit « Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. » Et là encore, on voit un lien très fort entre deux hommes, l'apôtre Paul et puis Épaphrodite. Épaphrodite, de nouveau un nom qui ne serait pas facile à porter aujourd'hui, mais encore une fois qui est très beau, parce que le nom signifie « agréable, délice ». Voilà. Épaphrodite était quelqu'un d'agréable, et particulièrement ici agréable à l'apôtre Paul. Il était fidèle, et on sent bien qu'il y a un lien entre Paul et lui, lorsqu'il dit notamment « mon compagnon d'œuvre et de combat ». Voilà, ils ont avancé ensemble, ils ont fait un bout de chemin ensemble, ils ont combattu ensemble et il s'est tissé vraiment des liens très forts entre ces deux hommes, au point que lorsqu'il vient aider l'apôtre Paul, Épaphrodite est prêt à exposer sa vie. Alors il faut savoir qu'il amenait un soutien à l'apôtre Paul. Et j'imagine que ce n'était pas très rassurant d'être avec une bourse sur les chemins. Quand on n'a rien, bon, ben, c'est pas grave. On se fait dépouiller de rien. Mais quand on a une bourse, eh bien, peut-être il a eu peur. Et voilà, il a exposé sa vie pour l'apôtre Paul. Et donc, il était prêt au sacrifice. Jésus dit, il n'y a pas plus grand amour que celui qui donne sa vie pour les autres. Et Épaphrodite était prêt à donner sa vie pour l'apôtre Paul. Il y a comme un engagement moral, un engagement affectif, fraternel. Voilà, il montre un amour qui est fidèle. Et j'aimerais juste prendre un dernier exemple. Romains 16, versets 3 et 4. Il est dit « Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rends grâce. » Ce sont encore toutes les églises des païens. Et là, de nouveau, un engagement, Priscille et Aquilas, engagement qui était tacite. Eux aussi ont été prêts à exposer leur vie, leur tête, pour sauver celle de Paul. Et c'est incroyable, la puissance de ce lien qu'il y avait entre eux. Pourquoi il y avait cet esprit de sacrifice ? Parce qu'ils servaient ensemble le même Dieu. Ils avaient un même but, une même direction. Et ils s'aimaient d'un amour fidèle l'un envers l'autre. Jamais ils seraient venus à l'idée de rejeter l'apôtre Paul dans le cœur d'Aquilas et Priscille, de la même manière que, eh bien, jamais Jonathan n'abandonnera David et vice-versa. Et même lorsque Jonathan est en danger, son père voit que Jonathan aime David, et là, Saül devient très agressif vis-à-vis de Jonathan. Eh bien, Jonathan, voilà, il va aller prévenir David. Il ne va pas abandonner David. Et quand on aime, eh bien, on s'engage réellement, même si c'est tacite. Enfin, on va voir une troisième chose que ça a produit dans le cœur de Jonathan quand il a vu David. Il a compris qu'il aimait Dieu et on peut dire qu'il y a eu une reconnaissance. Il a reconnu David. 1 Samuel 18, verset 4, il est dit « Jonathan ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. » Là encore, un signe très fort pour Jonathan. Il était, on l'a dit, le fils du roi, donc d'une manière naturelle, c'était lui qui devait prendre la succession en tant que prince héritier. Mais Jonathan va se dépouiller de son manteau, en quelque sorte, princier. Et même, il va lui donner tout son équipement de chevalier, de soldat, son épée, etc. Et il y a une reconnaissance de l'un envers l'autre. Jonathan a vu qui était David et il reconnaît quelque part qu'il est digne d'être le futur roi d'Israël. Et il se met en retrait derrière David. Et j'aimerais qu'on voit pour nous ici simplement ce fait de la reconnaissance, l'idée de la reconnaissance de l'autre. Dans les exemples qu'on vient de lire dans les Épîtres, on voit qu'il y a une reconnaissance mutuelle entre un serviteur et puis un autre serviteur, entre un homme, un autre homme, un chrétien, un autre chrétien. Épaphrodite veut aider l'apôtre fidèle, Paul veut souligner la fidélité d'Épaphrodite. Onésiphore, c'est donné pour un serviteur de Dieu qui est consacré et le serviteur l'honore par ses écrits. Aquilas et Priscille se donnent, sont prêts à exposer leur tête et Paul souligne tout de suite leur sacrifice. Il honore de tels serviteurs fidèles. Et on voit une reconnaissance qui est mutuelle. Je pose la question, savons-nous reconnaître la fidélité, l'intégrité et l'amour pour Dieu chez les autres? Est-ce que nous savons le voir, le reconnaître et dire oui, il est fidèle, elle est fidèle, ils sont fidèles? Je peux être en désaccord sur des petites choses, des points secondaires d'abord, mais rester respectueux et aimant parce que je reconnais l'amour pour le Seigneur. Je vois l'amour pour le Seigneur et on aime le Seigneur d'une même âme. C'est ça qui est important. Je peux aussi être d'accord, même s'il y a je peux être en désaccord doctrinal avec une personne, mais pourtant reconnaître chez elle l'amour pour Dieu, la fidélité, la consécration, un désir de bien faire. C'est possible, c'est possible. Même Barnabas et Paul se sont séparés parce qu'ils n'étaient pas d'accord, mais ils ne sont jamais devenus des ennemis. Jamais ils sont devenus des ennemis. Ils se sont toujours respectés l'un et l'autre. Pourquoi ? Parce que l'amour de Christ les unissait. Ce n'était pas possible de s'écharper. Est-ce qu'on sait reconnaître la fidélité, l'amour chez les uns et chez les autres ? Dans la suite du récit, en 1 Samuel 18, dans tout le texte, on ne va pas le lire, on ne va pas tout lire en tout cas, Saül va reconnaître, comme son fils, Jonathan reconnaît David, Saül va petit à petit reconnaître quelque chose en David, mais ça va prendre du temps. Regardez d'abord le verset 12. Il est dit: Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Ensuite, verset 15, Saül voyait qu'il réussissait toujours et avait peur de lui. Et finalement, verset 28, Saül vit et comprit que l'Éternel était avec David. Ça y est, il y a comme un déclic. Il y a un déclic. Et on se dit que ça a mis du temps. Ça a mis beaucoup de temps avant que Saül se dise « Bon, apparemment, vraiment, l'Éternel est avec cet homme. » Et quand on lit la suite de l'histoire, cette compréhension que l'Éternel était avec le futur roi David, parfois ça semble complètement échapper à Saül. C'est incroyable, c'est incroyable. Il le voit là, puis après, il fait comme s'il ne le voit plus. Et on peut dire qu'il y avait un vrai problème de reconnaissance dans son cœur vis-à-vis de David. Parfois, il semble voir, mais ça ne change pas dans son attitude vis-à-vis de lui. Et en cela, on voit vraiment que Saül et Jonathan ne sont pas pareils. Père et fils, mais ils ne sont vraiment pas pareils. Et Dieu, là, il veut qu'on ressemble au fils et surtout pas au père. Jonathan aime Dieu. Et il sait reconnaître quelqu'un qui aime et qui sert Dieu. Il le voit. Il dit, c'est évident. C'est évident. Et ce que j'aimerais que l'on retienne ce matin, c'est que l'amitié de David et Jonathan est comparable à l'amitié qui se développe entre des chrétiens qui marchent ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ. Quand on marche ensemble et qu'on veut être en accord avec Christ, en union avec Christ, eh bien, il y a un lien qui s'établit dans ses frères, dans ses sœurs. Dans l'Église, à cause de Jésus-Christ, et par le biais d'un amour qui est sincère pour Dieu, et c'est important. Si on n'aime pas Dieu, ou peu Dieu, ou on l'aime tous parce qu'on est chrétien, mais si notre amour n'est pas en premier pour Dieu, eh ben, la distance s'établit. Hein. On s'approche moins près de Dieu et puis ben, il y a une distance qui s'établit. Pourtant, on peut se rencontrer régulièrement et malgré tout, eh bien, il n'y a pas un lien qui s'établit. Et puis de la même manière, on peut ne pas être 24 heures sur 24 ensemble et puis pourtant, eh bien, il y a une communion qui s'établit profonde avec le temps. Et le liant, si je peux dire, c'est l'amour pour Jésus-Christ. Ça, c'est notre liant des uns avec les autres. Je ne peux pas faire du mal à mon frère ou à ma sœur. Ou si je me trompe, ben je vais demander pardon. Parce que j'aime. Et je ne sais pas ce que je voulais faire. On peut tomber, mais on répare. Et on veut retrouver une communion qui est vraie, qui est pure, qui est parfaite, qui est transparente. Parce que c'est la volonté de Dieu. Si mon cœur se trouve loin du Seigneur, si je ne suis pas dans une recherche de Dieu, de lui plaire, dans un désir de marcher dans la proximité, si donc je me trouve un peu à la périphérie, un peu loin, éloigné de Dieu, ben le résultat, c'est que mon amour pour les frères et sœurs, il devient faible. Il s'appauvrit. Et je ne les aime pas comme je devrais les aimer. C'est triste. Et je dis, on peut se voir régulièrement et pourtant avoir un faible amour. Parce que ben, il manque quelque chose. Mais si mon cœur veut marcher avec Jésus, il veut se rapprocher encore. Hein, on a lu dans le psaume 119, « Je te recherche, je te cherche. » Voilà, une volonté de « Je veux être plus près de toi. Je veux mieux te connaître. Je veux vivre pour toi. Je veux que tu remplisses ma vie. C'est important pour moi. Je te cherche. » Si on est dans cette attitude-là, forcément, on se rapproche de ceux qui aiment le Seigneur. C'est automatique, c'est naturel, et c'est merveilleux. Et c'est merveilleux. Plus on aime le Seigneur, plus on s'approche du Seigneur, plus on se rapproche les uns des autres, et plus l'amour grandit entre nous. David et Jonathan aimaient Dieu de la même manière. Ils étaient tous les deux des hommes de foi. Tous les deux, et on le voit plus loin dans l'histoire, hein, courageux. Hein. Jonathan était courageux aussi. Hein. Il va avec son serviteur, il va dire, allez, on y va, on va monter au poste des Philistins et que Dieu soit avec nous. On voit du courage, on voit de la foi. Donc il y avait une vraie ressemblance, similitude entre ces deux hommes. De la même manière, Jonathan va donner son manteau, il va mettre David en avant, mais David, il est dans cette attitude vis-à-vis de Saül. Hein, ils sont respectueux les uns des autres. Finalement, ils se ressemblaient beaucoup et ils se sont facilement trouvés. On se trouve facilement, on retrouve facilement ceux qui aiment le Seigneur. Alors, eh bien, qu'on puisse être des amis les uns pour les autres, parce que ça parle d'amitié finalement, ce texte. L'Église, elle renferme plein de personnes qui sont très différentes les unes des autres. Mais si on aime premièrement le Seigneur, eh bien, il n'y aura pas un obstacle à l'amour. On va s'aimer. Parce que, on se rapproche du Seigneur. Ça va être normal. Il va y avoir un attachement de l'âme pour l'âme de l'autre. Il va y avoir une fidélité, une loyauté, sans même le dire. C'est naturel. Il va y avoir un vrai amour, hein, parce qu'on reconnaît l'autre, chez l'autre, un amour pour le Seigneur. Mais j'aimerais terminer sur un dernier passage. Quand il y a un amour commun pour le Seigneur et qu'il y a une amitié qui se tisse réellement entre deux personnes, entre nous, la séparation, elle n'est pas facile. Elle n'est pas facile. Et la beauté et l'amitié entre David et Jonathan, elle se voit aussi dans leur séparation, parce qu'à un moment, ils vont devoir se séparer. Pourquoi ? Parce que Saül va exploser à l'idée que son fils puisse entretenir des liens avec David. Regardez ce qui va se passer. 1 Samuel 20, verset 41. Après le départ du garçon, David se leva du côté du midi, puis se jeta le visage contre terre et se prosterna trois fois. Les deux amis s'embrassèrent et pleurèrent ensemble. David surtout fondit en larmes. Et on voit ici de la peine, beaucoup de peine, parce qu'ils vont devoir se quitter. C'était deux hommes, c'était deux soldats. L'un était un prince, l'autre était un roi en devenir, et pourtant les deux se mettent à pleurer. Il n'y a pas de honte à pleurer parce qu'on s'aime. C'est le contraire qui est triste. C'est le contraire qui est vraiment triste. C'est quand il y a une séparation et il n'y a pas de peine. Il n'y a aucune peine. Ben ça, c'est triste. Finalement, ça montre que le cœur n'y était pas. Il manquait quelque chose. Verset 42. Et Jonathan dit à David, « Va en paix, maintenant que nous avons juré l'un et l'autre au nom de l'Éternel en disant « Que l'Éternel soit à jamais entre moi et toi, entre ma postérité et ta postérité. » Là, on voit le cœur de l'alliance qu'il y avait entre les deux. Hein. Et c'est beau ce que Jonathan dit. La version Darby dit « L'Éternel sera entre moi et toi, entre ma semence et ta semence. » Donc, c'est pas juste que l'Éternel, c'est pas juste un souhait, c'est carrément une promesse, une réalité. L'Éternel sera. Et ce qui unit deux personnes, deux frères, deux sœurs ou des frères et des sœurs qui sont ensemble, c'est que l'Éternel est entre eux. Il est entre eux. C'est ça qu'il est. Qu'il est soude, qu'il est colle. Il est entre moi et vous. Il est entre chacun, avec chacun. Et ça, c'est quelque chose qui ne se brise pas facilement. Même s'il y a une séparation physique, ben voilà, que l'Éternel soit entre moi et toi, qu'il reste et demeure notre lien, parce que, eh bien, on aime le même Dieu, on aime le même Seigneur. Est-ce que l'Éternel est entre nous? Est-ce qu'il est le liant qui permet réellement notre unité, ce qui établit une relation d'amour qui est indestructible entre nous, même si un jour, eh bien, nous venions à être séparés? Ça, c'est son plan pour l'Église, qu'on puisse être des Jonathan et des David, marchant d'un même cœur et nous rapprochant les uns des autres.